Eleições Regionais e Departamentais 2021. Edição especial com Daniel Ribeiro.
Olá, muito bom dia a todos. Cá estamos de novo para mais uma emissão política aqui na Rádio Alfa sobre a campanha para as regionais e departamentais francesas. Primeira volta no dia 20, segunda volta no dia 27 e a esta hora, neste momento, tenho o prazer de ter comigo aqui nos estúdios de Valentim da Rádio Alfa uma senhora de origem portuguesa, uma menina quase.
Olá, bom dia.
Chama-se Nathalie Pereira Fordelon.
É um prazer.
É filha e neta de portugueses.
Exato.
Nasceu
aqui em França.
Nasceu em França. Sim, já, portanto já é da terceira geração.
Exato.
E fala português muito bem, parabéns.
Obrigada.
E também tenho comigo o deputado LRM na República Marche, por la Seine-et-Marne, élu par la Seine-et-Marne, Rodrigo Cocoente, que vous êtes le tête de liste, avec Nathalie Pereira Fordelon, de la liste Rassemblée pour l'avenir de la Seine-et-Marne.
Bom dia.
Bom dia, prazer em recebê-lo aqui também. Je commence par vous d'ailleurs, excusez-moi un petit peu, parce que vous êtes aussi membre du groupe d'amitié franco-portugais oui. à l'Assemblée nationale.
Oui.
Qu'est-ce que vous amène, Rodrigo Cocoendo, à être membre de ce groupe d'amitié France-Portugal?
Alors, c'est l'amitié, elle est toute simple. Mon meilleur ami, je ne sais pas s'il écoute la radio, mais je lui passe un petit bonjour, Paulo Videra, à qui je pense en ce jour, mais... l'amitié, elle est née depuis très longtemps. J'ai passé mes premières vacances au Portugal, à Albufeira. Donc voilà, j'ai gardé un bon souvenir de l'Algarve, de toute cette belle région du Portugal. Et je souhaite, j'ai souhaité continuer à œuvrer entre nos deux peuples, se rapprochent encore un peu plus.
Et donc, ça marche. Et qu'est-ce que fait un groupe d'amitié France-Portugal à l'Assemblée nationale? Alors, parce que ça existe depuis longtemps.
Oui. Alors, un groupe d'amitié, c'est déjà travailler ensemble que les deux...
Un espèce de lobbying
Oui, ça peut être aussi un espèce de lobbying. Ça peut surtout faire avancer certains projets aussi au niveau du Parlement, à pousser aussi les gouvernements à aller plus loin sur certains sujets. Et surtout, c'est garder ces échanges et permettre à nos étudiants des deux pays à que Erasmus, par exemple, puisse continuer dans de bonnes conditions pour les deux pays et peut-être au-delà, avec toutes les relations qu'on a aussi bien toutes les anciennes colonies portugaises en Afrique, en Asie, et voilà, on travaille sur plusieurs sujets.
Rodrigo Cocoendo, vous avec Nathalie Pereira Fordelon, vous présentez cette liste Rassemblée pour l'avenir de la Seine-et-Marne. Quels sont les objectifs de cette liste? Passer au deuxième tour, gagner après?
Ah, nous voulons gagner, effectivement, nous voulons être élus pour porter une voix. Avec Nathalie, on l'a toujours dit, nous, c'est la voix des citoyens, c'est la voix de ceux qui nous font confiance. Nous ne sommes pas un syndicat d'élus, mais nous voulons que la population soit plus proche de la population. Donc, sur des sujets qui sont très chers à Nathalie, que je laisserai dévoiler ce qui lui tient vraiment à cœur et que j'ai accompagné depuis qu'on se connaît sur le terrain.
Pourquoi vous l'avez invité pour la liste?
Parce que c'est quelqu'un de très, très, très compétente. Quelqu'un qui a travaillé, qui a à cœur de réussir tout ce qu'elle entreprend. Une femme courageuse, une femme très intelligente et une femme de conviction. C'est-à-dire que elle se met vraiment sa personne au-delà de sa personne et elle se voue aux autres. Donc c'est ça que je recherche dans l'être humain et c'est ça qui fera que et que la population reconnaît déjà. Donc la population reconnaît tout son travail qu'elle a fait au niveau de la mairie de Pomponne et nous devons continuer ce travail et c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel à qui il faut faire confiance.
Oui, parce qu'elle a été Nathalie Pereira Fordelon, je crois que vous avez été maire adjointe.
J'étais maire adjointe et
à Pomponne.
Absolument, j'ai été élue pendant 12 ans.
Vous êtes engagé en politique depuis longtemps?
Depuis une douzaine d'années, absolument.
Et vous étiez assez jeune quand même, vous n'aviez pas beaucoup d'expérience en politique.
Absolument.
Pourquoi vous avoir engagé en politique?
Alors ça remonte peut-être à mes grands-parents, à l'histoire portugaise. Ils sont partis du Portugal, la pauvreté, et puis la misère et ce qui se passait pendant la dictature.
De quelle région?
Via Nadukastel. J'imagine que beaucoup de gens nous écoutent.
Très belle région du Nord.
Absolument, elle est magnifique. Et on avait, ma mère m'a toujours transmis le combat, la loyauté, être républicaine avant tout et défendre le pays qui les avait accueillis.
Donc, antifasciste.
Absolument.
Troisième génération.
Tout à fait.
Et vous parlez portugais, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de portugais de la troisième génération. Je n'arrive plus à parler très bien.
Absolument. Alors, il est vrai que dans les années 80, on disait à nos parents à l'école française de pas trop nous parler en portugais. J'ai tardé à apprendre le portugais. Et dans ma ville où je suis née, il n'y avait pas de cours de portugais. Mais avec le temps, j'ai commencé à essayer de comprendre ce qu'étaient mes racines, hein, parce que mes parents ne me parlaient pas beaucoup de ce qu'ils avaient vécu là-bas au Portugal. Je savais qu'ils avaient fui par les Pyrénées, mais au-delà de ça, j'avais très très peu d'informations, comme s'il ne fallait pas en parler. Donc à l'âge de 30 ans, j'ai commencé à rechercher, à savoir ce qu'étaient mes origines, à poser beaucoup de questions à ma famille. Et puis à ce moment-là, j'ai commencé à prendre des cours de portugais. Et je pense que mes parents sont très fiers qu'aujourd'hui, je puisse renaître de ces racines, de leurs racines et des miennes.
Rodrigo Coquendo, c'est bien que les Français d'origine étrangère soient liés à ces racines, parce que, disons-le clairement, il y a des partis en France qui sont contre.
Oui.
Ce genre de, que les fils des étrangers continuent liés à ses racines. Oui. Est-ce que pour vous, c'est bien?
C'est une force. C'est une force d'avoir une double culture. C'est une force parce que si je prends le cas de Nathalie, et je peux m'inclure dans ce cas-là, on apporte...
Parce que vous aussi, vous êtes d'origine étrangère.
Voilà, je suis né à Bangui, en Centrafrique. Mais on apporte, je dirais, le fruit de... des cultures, en fait, ça a mûri, en fait, c'est des cultures qui ont mûri ensemble et qu'on a envie de partager avec les autres parce que, comme on le sait tous, un fruit c'est bon. Donc, quand c'est bon, ben, on aime le partager avec ceux qu'on aime. Et comme on aime la nation française, on aime ce pays, alors on veut le partager. Tout le travail qu'on a fait, nos études et tout, on le met au service d'un pays totalement au-delà de notre personne.
Et Nathalie Pereira. Je peux vous appeler par elle aussi.
Oui, avec plaisir.
Pardon, c'est le nom
de mon époux.
De votre époux. Et vous êtes indépendante,
oui.
vous m'avez dit. Et plutôt à droite.
Alors, je
c'est
suis
ça?
Une ancienne LR et j'ai décidé il y a quelques années...
LR, c'est les Républicains.
Les Républicains, absolument. Et j'ai décidé de me retirer, d'être indépendante parce que je sentais auprès de la population qu'il fallait que ça le soit. Et je traitais des dossiers qui n'étaient pas forcément suivis par les partis. C'est pour ça d'ailleurs que je suis aux côtés de Rodrigue parce qu'avant de représenter La République En Marche, Rodrigue a défendu des dossiers et la citoyenneté et nos habitants. Et c'était une force pour moi qu'aujourd'hui de ne pas faire partie d'un parti. Pour autant, ce qui est étonnant, c'est que socialement, quand j'œuvre pour le social, les gens me prennent pour plus un parti de gauche. Et quand j'œuvre pour le collège, les routes, les crèches, eh bien plutôt pour un parti de droite.
Et, c'est précisément pour vous, la REM, la République En Marche, c'est un parti de droite ou de gauche? Est-ce que, comme dit par exemple la gauche, M. Macron a tourné vraiment à droite?
Non, je pense que c'est à la fois un parti de centre et de droite qui est très ouvert aussi sur la gauche. Il y a énormément d'informations qu'on puise auprès de M. Macron et ce qu'il présente aujourd'hui, son parcours, est intéressant pour tous les citoyens. D'ailleurs, on le ressent bien quand les citoyens viennent nous voir. Aujourd'hui, beaucoup sont très satisfaits de sa gouvernance et ça, c'était important aussi à mes yeux parce que j'y ai puisé des dossiers très intéressants et à la fois pour la commune et le département.
Rodrigo Coquendo, le président Macron ne vous a pas déçu encore? Parce qu'il y a eu beaucoup de déçus, il y a eu beaucoup de problèmes pendant le quinquennat, il y a eu des révoltes dans la rue, beaucoup de confusion, même de violence.
Oui, il a su à chaque fois trouver les mots pour apaiser la population malgré une opposition, je dirais, qui cherchait tout le temps à faire monter la violence ou autre. Il a toujours su trouver les mots, trouver les actions, trouver les moyens pour amener la sérénité au sein de la population. Et puis, ses actions... on le voit bien, sa politique qu'il a menée depuis qu'il est élu, que ce soit au niveau social, je dirais, au niveau de l'émancipation de l'être humain, c'est-à-dire la connaissance, l'école, le dédoublement des classes, c'est déjà très important. On veut le pérenniser, on veut que ce soit, qu'on aille beaucoup plus loin. Au niveau de l'économie, c'est pareil. On a aidé beaucoup d'entreprises pendant cette crise. Je pense que l'État a fait ce qu'il fallait pour aider toutes les entreprises. Et nous, à l'Assemblée nationale, on a voté pour justement que cette aide aille le plus loin possible.
Encore sur la politique, après, on passe à vos propositions concrètes pour le département. Est-ce que Marine Le Pen, c'est un vrai danger pour la France? Est-ce qu'elle peut gagner, par exemple, quelques régions? Non, je pense à PACA, par exemple, dans le Nord, et peut se placer et peut être très forte pour les prochaines présidentielles. C'est un danger pour la France, Marine Le Pen?
Je pense tout à fait que pour moi c'est un danger parce qu'il n'y a pas de cohérence dans sa politique. Elle court après les faits divers.
Elle est très forte dans les sondages en ce moment.
Oui, mais c'est parce que c'est une personne qui court après les faits divers. Un fait divers, c'est ce qui choque souvent la population. Donc en réaction... Ben, la population se dit, bon, il faut faire ci, il faut faire ça. Et elle court après ça. Donc, elle alimente un peu, l'effet populisme en France. Et je trouve ça très dangereux parce que la population en elle-même, on le voit bien dans tous les domaines de notre société, la population aspire à vivre ensemble et à évoluer ensemble et surtout à construire des choses ensemble, à construire des ponts.
Voilà. Il y a un travail de terrain assez important à faire auprès des habitants, justement, pour détricoter ce que Marine Le Pen propose aujourd'hui.
Au niveau du département, quelles sont vos propositions principales pour ces élections départementales? Par exemple, Nathalie Pereira, Fordolone.
Vous savez pas dire Nathalie Pereira, non, nenhum problème.
Nathalie Pereira. Vos principales propositions sont sociales et éducatives.
Absolument. Alors, il est vrai qu'avec Rodrigue, on a défendu depuis plusieurs années une vraie problématique sur nos 14 villes. On en a deux problématiques. Nous avons 14 villes avec 10 villes qui ont moins de 5000 habitants et qui ne sont pas forcément entendues au département. La deuxième priorité, c'était le collège. Nous avons des collèges qui sont totalement saturés aujourd'hui. Et depuis quelques années, nous œuvrons avec d'autres communes, pas simplement Pomponne, mais d'autres communes, pour qu'il y ait une installation d'un collège. Nous avons déjà le terrain, nous avons déjà ce qu'il faut pour justement accueillir ce collège. Malheureusement, il y a 2 ans, nous n'avons pas été entendus par la vice-présidente.
Voilà.
Du département.
C'est le département qui décide.
Absolument.
La région n'a rien à voir.
Non. Pour les collèges, c'est le département, la région, les lycées.
Et donc,
aujourd'hui, nous n'avons pas eu d'écoute. On s'est battu pour ça. Et c'est un des sujets principaux. Et les habitants attendent Rodrigue, justement, pour que nous puissions défendre cette installation, pour que nos enfants puissent mieux vivre et mieux apprendre.
Et ça peut être fait dans le prochain mandat, par exemple?
Absolument. Dès qu'il y a un vote, le premier vote au département, si nous y sommes, c'est un sujet que nous allons défendre.
Très bien. Et... Est-ce que pendant la crise sanitaire, votre région a beaucoup souffert, votre département a beaucoup souffert de la crise sanitaire, du Covid, qui s'est pas fini d'ailleurs encore?
La crise n'est pas finie, on fait attention. Le département, je dirais que c'est toute la France qui a souffert, mais le département lui-même a souffert. Mais l'État a suivi. Bon, bien sûr, il y a eu quelques petits retards ici ou là, mais l'État a su répondre au bon moment aux besoins de la population. Et puis chaque élu du territoire, l'État a associé les élus du territoire sur la gestion de cette crise. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et demain, c'est ce qu'il faudra faire aussi. C'est-à-dire, il faut porter des projets où tout le monde s'assoit autour d'une table pour discuter et préparer ces projets ensemble. Il ne faut pas que que la région d'un côté et le département de l'autre, l'État ou d'autres collectivités travaillent que de leur côté. Nous voulons être cet espace qui puisse s'ouvrir et qu'on puisse travailler tous ensemble sur des grands projets qui mènent la nation vers le plus haut. On a des projets pour nos territoires. On veut par exemple approvisionner 100% des collèges en produits locaux et bio. On veut renforcer la capacité des maisons départementales MDPH pour les personnes en situation de handicap. C'est un manque sur notre secteur. Peu de choses sont faites. Les trottoirs, il manque des accès pour les personnes qui sont à mobilité réduite. Il y a beaucoup de choses. On veut lutter aussi contre les déserts médicaux en soutenant financièrement la création de maisons pluridisciplinaires de santé. Donc tout cela... nous avons en tête et nous savons que c'est à la portée du département. C'est pas des projets qui sont au-delà des capacités financières du département. Le département a un budget de 1,5 milliard d'euros. Nous pensons que des priorités doivent être fixées par le département pour qu'on puisse justement dire, voilà, il faut que le côté la population directe, il faut que les efforts soient faits à ce niveau-là. Et donc, avec Nathalie, nous souhaitons vraiment porter... tous ces projets.
Vous êtes de Seine-et-Marne, département de Seine-et-Marne. Est-ce que le Grand Paris, le projet du Grand Paris, ça vous dit quelque chose au département? C'est bon pour le département?
Je pense oui. Il y a de très 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 grands projets. Je pense que le projet à l'époque qui a été imaginé par le président Sarkozy allait au-delà de l'Île-de-France. Au-delà de l'Île-de-France. Donc il faut, je pense, y réfléchir. Mais ce qui est important maintenant,
ça avance dans votre région, dans votre
département. Puisqu'on a des projets qui sont en cours. On a le Grand Paris Express qui a des lignes sur notre département, surtout pour la préparation des Jeux Olympiques 2024. On a des lignes qui sont prêtes dans ma circonscription ou dans d'autres de mes collègues. On travaille sur ces sujets-là. Et donc les transports, c'est vraiment un élément important, aussi bien pour la région que pour le département, et que l'on soutient avec Nathalie aussi, parce que on voit bien, parce que quand on a des petits villages qui veulent, les gens veulent se déplacer de village en village, soit ils utilisent leur voiture, soit alors on peut imaginer des transports à la demande. Oui. Pour aider, voilà, pour éviter que chaque personne prenne sa voiture et voilà.
C'est un des sujets importants à laquelle il faut réfléchir, le transport à la demande dans les petits villages, hein, pour que les gens puissent
Qu'est-ce que vous appelez le transport à la demande?
Eh bien, concrètement, vous avez un bus à disposition, les personnes appellent, téléphonent, prennent rendez-vous et à un arrêt de bus, elles attendent et on peut les amener, les transporter à une gare, à la gare la plus proche. Ça se fait, il faut que ça soit développé un peu plus dans un des plus grands départements.
Ça sera gratuit, ça sera gratuit. Par exemple, hier, j'avais ici une invitée. Oui. Audrey Poulvac,
je l'ai écouté attentivement.
Qui défendait la gratuité de tous les transports publics en Île-de-France pendant les prochains 5 ans. Et est-ce que, par exemple, ça, le transport à la demande, ça sera gratuit?
Très sincèrement, je vais vous répondre globalement, le transport à la demande gratuit sur l'Île-de-France, je n'y crois pas. Je ne sais pas avec quel fonds, où on va puiser ces fonds pour que la gratuité se fasse. Après, il y a des accompagnements, il y a des aides au niveau du département, par exemple. Vous avez des aides pour la carte imaginaire. Donc, on pourrait imaginer qu'il y ait des aides, mais une totale gratuité, c'est totalement utopique.
Donc, vous critiquez Poulvard sur ce
sujet. Je ne la critique pas, la femme, la journaliste.
Vous ne croyez pas.
Cette proposition me paraît utopique, oui.
Je pense que c'est une proposition qui ne prend pas en compte la réalité de notre territoire, parce que quand on parle transport, on parle aussi entreprise et on parle famille, on parle de beaucoup de choses. Je pense que à un moment on dit transport gratuit pour qui? Quelle population? Est-ce que ce sont vraiment les plus démunis qui vont en bénéficier, parce qu'ils en bénéficient déjà? Donc ça c'est déjà le réel. Alors on va l'élargir à quel type de population? Comment on va la financer? Est-ce les entreprises qui sont déjà en difficulté qu'on va demander encore à soutenir, parce que déjà l'État les soutient, les entreprises? Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui sont pas réglées. Je pense que ce type de proposition ne tient pas la route et il faudrait vraiment revoir la copie, comme on dit.
Eh bien, on arrive vraiment à la fin. Bon, ça passe vite le temps.
Oui.
On arrive à la fin de cette interview. Je voulais que vous, Nathalie, qui est d'origine portugaise, oui, vous envoyez un message personnel aux gens comme vous, les Portugais, les Français d'origine portugaise ou ceux qui ont la double nationalité, qui peuvent voter.
Absolument.
Dans ces élections.
Je parle beaucoup avec les gens de ma génération et plus jeunes. Et ce que je leur transmette, c'est réellement de ne pas oublier nos racines. Hein, parce que nos racines, elles sont importantes, elles sont belles, elles ont une très, très belle histoire. Et ça, c'est important. Il faut pouvoir faire perdurer la double culture. Et au-delà de ça, aller voter, parce que vous faire entendre, mes parents me l'ont toujours appris, et il faut se faire entendre. Et pour se faire entendre, il faut aller voter, et il faut aller voter bien. Étudier ce que les candidats vous proposent, voir leur parcours aussi et ce qu'ils ont pu présenter par le passé. Et avec Rodrigue, j'ai une chance extraordinaire, et je le dis très sincèrement, c'est que c'est une personne qui est humaine, qui est sociale. Je le suis depuis des années, et nous nous sommes mis ensemble pour défendre nos habitants et notre territoire avant tout.
Rodrigue Cocuendo, vous avez la même opinion, je crois.
Ah oui.
Mais est-ce que vous appelez les gens à voter à cause de l'abstention? Ça veut dire, venez voter, même si vous ne votez pas pour nous, ou vous dites, venez voter et votez pour nous?
Alors, si je veux être vraiment politique, je dirais avec la langue de bois que certains utilisent le plus souvent, venez voter. Mais en même temps, je leur dis, venez voter et regardez les programmes des différents candidats et faites le bon choix.
C'est ce qui vient de dire Nathalie.
Voilà. Et donc nous portons vraiment un programme tiré du terrain, parce que c'est suite à nos différentes rencontres qu'on a pu bâtir notre programme. Et ça défend tout le territoire, ça défend les grandes comme les petites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ici, j'espère que je serai pas trop long, aujourd'hui, beaucoup de grandes villes tirent profit au fait de parce qu'ils sont grands, et c'est eux en priorité. Nous, on va inverser aussi la chose, on veut que ce soit aussi les petites, parce qu'ils ont besoin d'infrastructures, ils ont besoin d'équipements publics pour que eux aussi puissent bénéficier des aides, des subventions du département ou autres pour pouvoir vraiment répondre aussi aux besoins de leur population.
Donc, merci beaucoup. On est arrivé à la fin, vraiment. On a dépassé les 20 minutes largement.
Merci de nous avoir reçus. C'est un vrai plaisir.
C'est un plaisir pour moi de vous recevoir. Nathalie Pereira-Fadlon et aussi Rodrigue Cocuendo pour être venu ici à Valenton.
Merci.
Pour cette interview à Radio Alpha.
Obrigado.
Merci à tous.
Foi um prazer. Obrigado.
E uma boa continuação, uma continuação de um bom dia para todos os ouvintes.
Eleições regionais e departamentais 2021, para acompanhar na rádio que nos liga.